Donc Loïc Vindels, qui va nous parler de Knoufis chez les Ophites, le double langage du texte et de l'image dans la tentation de saint Antoine. Donc c'est à vous, vous avez 40 minutes à peu près. Je n'ai pas de montre, je ne sais pas si... Ah.
Bonjour, alors, en fait j'ai changé le titre, juste parce que j'avais peur, justement, à cause du temps, de ne pas arriver jusqu'à la fin. Donc, je vais commencer par la fin pour être sûr d'en parler. Donc, j'ai appelé ça la force des images. Si on réfléchit un peu au 19e, on voit guère d'autres œuvres qui puissent, à ce point, réaliser la fusion entre la littérature des images et la littérature des idées telle que Balzac l'avait décrite. Qu'il appelait la littérature éclectique, dont le modèle était Walter Scott, qui peut nous faire sourire, que la tentation de saint Antoine. En effet, on a l'impression que c'est sans cesse de l'image qu'on a sous les yeux, sans cesse de l'idée, puisque c'est un drame d'idées, et que pour quiconque s'intéresse un peu au rapport du texte et de l'image, c'est un peu l'œuvre parfaite, puisqu'on a de l'image verbale sans cesse, de l'image visuelle qui est produite, mentale, qui est produite par cette image verbale, et même au niveau d'un point de vue du statut de l'image par rapport au texte, on a des images génésiques, ou disons générantes, c'est pas très joli, les images, bien sûr, Bruegel par exemple, encore que les détails soient plus, disons, l'inspiration soit globale, il est reconnu une sorte d'équivalent esthétique, mais surtout les documents, comme nous verrons, ou que ce soit aussi les images générées, les illustrations que ça peut produire, etc. Et dans ce qui est de la façon de forger les images, ce qui est intéressant, c'est que Flaubert procède à la fois, très souvent, à partir de textes et à partir d'images. Et alors, le but que j'aimerais, si on y arrivait, ce serait bien, c'est de relier trois scènes, trois images, trois scènes de la tentation de saint Antoine de la dernière version, et j'y insiste parce que je pense vraiment qu'elles sont typiques de la dernière version. Alors, juste un bref rappel, parce que la tentation n'est peut-être pas l'œuvre la plus lue par le lectorat de Flaubert. On peut regrouper très vaguement trois grands mouvements dans la tentation, de 1974. D'abord, le saint qui est tenté matériellement. Hein, il y a une première scène d'exposition qui nous montre le saint dans un moment de doute, et ce doute qui croit jusqu'à une première hallucination auditive, hein, trois voix, qui lui proposent l'argent, la femme et la gloire. Et le chapitre 2 va développer ça autour de deux figures principales, Nabucodonosor et la reine de Saba. Puis viennent les tentations spirituelles, c'est à celle-ci que nous nous intéresserons davantage, par un court chapitre d'abord, seulement 16 pages, où Hilarion, qui était l'ancien disciple d'Antoine, prend une importance très grande. On sent que c'est la sorte d'allégorie, sans le dire, de la science au sens de la théorie de la connaissance, etc. Et va avoir lieu une longue discussion théologique, où Hilarion sera celui qui va sans cesse amener le saint face à des arguments relativistes, en amenant soit les hérésies, soit d'autres dieux, d'autres religions, en faisant des ponts et en utilisant bien sûr toutes les lectures de Flaubert sur les mythographes de l'époque. Le chapitre 4, qui est le plus gros, le chapitre central, et qui sera celui donc de Knoufis. Donc je passe rapidement les dieux, et puis ensuite lorsque tous les dieux sont passés, hein, de Crépitus aux dieux de l'Ancien Testament, nous arrivons à troisième mouvement qui est moins clair, mais qui est en quelque sorte de l'esprit à la matière, c'est-à-dire que on a tout d'un coup le vol, hein, qu'on trouve d'Esmar, le vol de Faust, Antoine qui parcourt le monde, donc c'est à nouveau les richesses, mais d'un point de vue du haut, puis une chute. Et là, on a les trois scènes fameuses, la luxure et la mort, la chimère et le sphinx, les animaux et la matière. Alors, dans la première partie, j'aimerais d'abord essayer de voir les images qui sont générées par le texte. Et commencer par une sorte d'hommage un peu absurde, parce que c'est un classique. de Jean Seznec, notamment ses nouvelles études sur la tentation de Saint Antoine, qui avaient été fondamentales, notamment pour Foucault, pour l'essai de Foucault. Parce que Jean Seznec a très bien montré comment l'image provient chez Flaubert d'un véritable collage permanent de traductions, de citations, de lectures. Permanent. C'est-à-dire que il faudrait essayer de penser la tentation de Saint Antoine déjà comme une sorte de second volume permanent. C'est-à-dire que Flaubert, on a l'impression qu'il est en plein lyrisme, nous dit textuellement Jean Seznec, et il apporte ses preuves. Et par exemple, je vous montre juste ça, on ne va évidemment pas voir ça dans les détails, pour les monstres, je me souviens d'avoir lu un article qui faisait quelque chose d'assez beau, une très belle critique du Mirag, sauf que le critique pensait que le Mirag avait été forgé par Flaubert, mais non, Jean Seznec avait bien montré que le Mirag venait d'un traité très très rare. Donc cette critique des sources, puisque Jean Seznec était essentiellement philologue, ne suffit évidemment pas, mais elle permet certains garde-fous, puisque la tentation est une sorte de paradigme de la réutilisation permanente et du collage, c'est presque un santon. Hein, ces œuvres forgées à partir de mots qui ne vous appartiennent pas. Mais dans toutes ces images, dont la plupart donc peuvent être arrimées à un texte latin traduit, par Flaubert ou par les commentateurs, il y a une image qui est... Alors, peut-être je me trompe, peut-être qu'un nouveau commentateur me montrera un texte que je n'ai pas trouvé, c'est fort possible, mais il me semble qu'il y a une image qui échappe à cette logique et que Flaubert a bien inscrit dans le texte qu'elle échappait à cette logique. Donc c'est ce que j'aimerais voir, et c'est cette scène fameuse entre la luxure et la mort, alors qui est une de celles qui a été le plus remaniée entre les trois tentations. C'est-à-dire que quand on regarde, on fait un rapide calcul, la luxure, il y a quelque chose comme plus de 10 fois moins d'occurrence du mot luxure. En revanche, cette apparente baisse d'importance est accrue par cette scène entre les deux allégories qui prennent d'autant plus d'importance que les autres allégories disparaissent et que la fin est complètement différente. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une sorte de jeu entre les deux, de lutte hein, pour tenter Antoine, comme dans celle de 74, mais à la fin, Antoine refusait les tentations à la fois du suicide et de la luxure, et les têtes des deux allégories se baissaient, l'échec. Ici, elles ne se baissent plus, ça va être Antoine qui va tomber, hein, qui va vraiment, ça va être une image renversante au sens le plus propre, et les deux allégories vont aboutir à un champ commun, qui est celui que je vous ai reproduit ici, et surtout, après ce champ commun, où on va avoir cette idée flaubertienne en diable, si j'ose dire, du grand cycle par lequel tout commence et par lequel tout se termine, qu'on trouve dès les œuvres de jeunesse, qu'on trouve dans Madame Bovary, notamment dans la relation avec Léon. Hein, les commentateurs ont souvent relevé cette part noire du désir d'Emma. Et ce duo va aboutir à quelque chose d'assez surprenant, qui est une sorte, dans les coulisses du texte, une première union charnelle entre les deux allégories, qui peut se lire entre les lignes. Une secousse de temps à autre lui fait entrouvrir les yeux au sein, et il aperçoit au milieu des ténèbres une manière de monstre devant lui. C'est une tête de mort avec une couronne de roses, elle domine un torse de femme d'une blancheur nacrée. En dessous, un linceul étoilé de points d'or fait comme une queue. Et tout le corps ondule à la manière d'un ver gigantesque qui se tiendrait debout. Donc on voit bien, ne serait-ce que juste en regardant ce texte, qu'il y a une manière, effectivement, on reconnaît les symboles de la mort, de la luxure, la tête de mort évidemment, la couronne de roses, des choses comme ça. Mais alors, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je voudrais juste arriver à mes conclusions pour ce point-là, pour arriver à Knoufis plus vite. Mais lorsqu'on regarde un petit peu, il me semble, mon hypothèse, c'est que, alors il faudrait évidemment regarder plus profondément dans les brouillons, ce que je n'ai pas eu le temps de faire, et parce que c'est très compliqué, et que pour le moment, je n'ai pas le temps. J'ai essayé de regarder ce qui se passait dans les autres tentations. Et lorsqu'on regarde un petit peu, on a vraiment, mon hypothèse, c'est que là, si si la tentation de Saint-Antoine est à elle seule un second volume, j'ai l'impression que là, on est à l'endroit où, dans le second volume de Bouvard-Bécuchet, comme dans le deuxième Don Quichotte, Flaubert avait pensé se citer. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ici, Flaubert procède avec son propre texte et ses propres avant-textes, et encore une fois, c'est une hypothèse, il faudra vérifier dans les brouillons, avec ses propres versions précédentes, il procède exactement de la même façon qu'il procède normalement avec ses sources et avec ses lectures. Et notamment, lorsqu'on regarde, il a effacé la tête de mort de la mort et de la luxure, il a effacé les couronnes de roses, on a juste... donc il faut regarder par la droite, disons. J'aurais peut-être dû inverser le tableau. Et je ne rentre pas dans les détails, mais on trouve les détails dans les versions précédentes. De même pour ce linceul étoilé de points d'or qui fait comme une queue, on a l'impression qu'elle vient aussi d'un mouvement qui vient des versions précédentes. Et Jean Seznec nous disait aussi, toujours dans le même livre, que très souvent, le commentateur, lorsqu'il trouve un point prosaïque, un peu saillant, il peut être à peu près sûr que Flaubert, là, a une source dessous, a un texte qu'il traduit dessous. Et c'est encore vrai ici, me semble-t-il, avec deux mots qui sont particulièrement étonnants, la blancheur nacrée. Il n'en a absolument pas été question à propos de... C'est très flaubertien quand on regarde un peu dans d'autres textes, mais pas dans la tentation. Et ce vers, hein, ce vers qui ondule. Alors on pense bien sûr à l'asticot, etc., de la mort. Mais il me semble qu'on peut essayer de trouver derrière des allégories qui étaient très présentes dans les tentations précédentes et qui ont disparu, à savoir la sirène d'un côté, et de l'autre côté, qui sont nacrées, et qui prêtent, entre guillemets, leur nacre à la fois à Vénus et leur croupe à la luxure. Or, Vénus et la luxure, ça, dans les brouillons, c'est noté dès le départ. La luxure est considérée comme une sorte de caricature de Vénus. Et le monstre a un torse... est elle-même hybride, comme la sirène, et a un torse de blancheur nacrée. Et pareil, on oublie que le phénix, chez Pline, est à un endroit que Flaubert ne pouvait pas rater, puisque c'est le début du chapitre 10 sur du livre 10 sur les oiseaux. Le phénix, dans le cycle du phénix, il est un peu sur le cycle du papillon, pensez sur le cycle du papillon. C'est-à-dire que nous, dans l'imaginaire général, on a le brasier et puis le phénix qui s'envole. En fait, entre les deux, il y a un vers. Et alors, mon hypothèse, c'était que Flaubert avait inscrit cette façon de travailler son texte dans la version définitive ou publiée, puisqu'il ne parle pas de monstre, il parle de manière de monstre. Ce qui, à mon avis, est l'indice de cette main de l'écrivain, qui est la manière étant la façon qu'a la main de tracer quelque chose, et qu'il inscrivait là un indice permettant de se déplacer un petit peu par rapport à son travail général dans le reste du texte. Et par ailleurs, ce qui marchait donc d'un point de vue, disons, méta-discursif, marchait aussi d'un point de vue de cette façon qu'avait le monstre qu'avait Flaubert, pardon, de construire son monstre, procédait exactement à ce qu'il était en train de décrire, à savoir une destruction des choses existantes pour reconstruire autre chose. Alors, maintenant, ce que j'aimerais... voilà, ça c'est la première chose, le premier point que je voulais aborder. Et maintenant, Jean Seznec avait aussi trouvé une source pour ce monstre, mais une source iconique, et qui était très particulière, puisque c'était un croquis que Maurice Sand avait envoyé à Flaubert pendant l'écriture de la dernière tentation. Il lui avait envoyé plein de grotesques. Flaubert, selon Seznec, il en aurait utilisé un ou deux, dont celui-ci, qui était une sorte de grotesque, comique, ridicule, etc., et que Flaubert aurait réutilisé. On reconnaît effectivement une sorte de forme ondulante, hein, une sorte de verre avec une tête, effectivement. Pas une tête de mort, mais enfin bon, disons que cette forme se retrouve. Et Seznec disait, mais voilà le travail de Flaubert, après que ce dessin un petit peu grotesque et soit passé après qu'il est passé dans la prose de Flaubert, voilà ce qu'il devient dans l'œil d'un lecteur, à savoir Odile Redon, une sorte de cauchemar. Et il se trouve qu'il faisait un autre rapprochement avec justement, ça je l'ai découvert après, mais il faisait un autre rapprochement exactement sur le même thème, avec un autre passage qui sera celui qui va nous occuper à présent, à savoir Knouffis. Alors cette fois, c'est la deuxième partie de mon exposé, et j'aimerais, donc on a vu une image qui était essentiellement construite de textes et peut-être aussi un peu d'images, et maintenant j'aimerais voir l'inverse, à savoir une image qui est fondamentalement construite à partir d'une image, mais qui est, dont la logique et la structuration interne et la logique dans l'économie du récit, elle, en revanche, est construite par l'intertexte savant. Alors, après avoir la vue de la main de l'écrivain, je voudrais voir l'œil du lecteur, voire du lecteur lambda. Lorsqu'on ouvre la Tentation de Saint-Antoine, c'est aussi pour ça que j'ai commencé par la Luxure, parce que c'est un peu plus connu, mais en règle générale, on peut avoir en tout cas la même réaction que le lectorat du XIXe siècle, à savoir que la Tentation de Saint-Antoine est en partie illisible. Sauf que dans le chapitre sur la gnose, ça tombe plutôt bien, puisque la gnose est réputée justement devoir être illisible, sauf aux initiés. Et c'est ainsi que lorsqu'on arrive dans le chapitre 4, je vais vous remettre l'économie du plan des chapitres pour l'avoir bien en tête, on a une somme de noms d'hérétiques ou de sectes hérétiques, et puis tout d'un coup, ça change. Tout d'un coup, on n'a plus de noms, on a, et Antoine, sans tomber sur son bras, une main brutale qui l'entraîne. Cette main brutale qui l'entraîne, il monte un escalier complètement obscur, et après bien des marches, il arrive devant une porte. Alors, celui qui le mène, est-ce Hilarion, il n'en sait rien, dit à l'oreille d'un autre, « Le Seigneur va venir !» Et ils sont introduits dans une chambre basse de plafond sans meubles. Ce qui le frappe d'abord, c'est en face de lui une longue chrysalide couleur de sang avec une tête d'homme d'où s'échappent des rayons et le mot « Knouffis » écrit en grec tout autour. Elle domine un fût de colonne posé au milieu d'un piédestal. Sur les autres parois de la chambre, des médaillons en fer polis représentent des têtes d'animaux, celles d'un bœuf, d'un lion, d'un aigle, d'un chien et la tête d'âne, encore. Alors, voilà, la question c'est qu'est-ce que c'est que cette nouvelle main qui mène ? Et à mon avis, c'est peut-être la main du récit qui prend un autre cours, brusquement. Le lecteur est un peu dans la position d'Antoine. Il est devant un texte en grec, c'est-à-dire devant l'étrangeté d'un texte et d'une langue qu'il ne maîtrise pas forcément, une image étrange qui ne dit rien, qu'il est obligé de mettre en relation avec le texte qui est autour, puisqu'on lui précise qu'elle est autour. Et donc, le lecteur est dans la position d'Antoine. Et d'ailleurs, à la fin, il y a un marqueur de cette identification qui est « Et la tête d'âne encore ». Alors ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'on est dans les didascalies, et on a la voix d'Antoine, ou la voix du lecteur, c'est-à-dire qu'effectivement, Antoine reconnaît la tête d'âne, donc le lecteur est amené ou incité à remonter le cours du texte, et effectivement, s'il remonte un peu, il va voir les Marcosiens et on lui dit qu'il y a une tête d'âne qui représente Sabaoth, le père du diable. Et s'il remonte un petit peu plus haut, il se rappelle qu'on lui a dit que c'est le diable qui a fait le monde. Et à ce moment-là, Antoine était horrifié et Hilarion lui dit « Tu te désespères trop vite, tu comprends mal leur doctrine. » Donc on comprend qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que Flaubert, dans le chapitre 4, a installé une sorte de schéma qui est Hilarion mène Antoine à travers les hérésies et leurs dogmes, comme Flaubert va mener le lecteur à travers les hérésies et leurs dogmes, en lui disant « Tu te désespères trop vite, tu comprends mal leur doctrine. » Ou en tout cas, « Attends un petit peu de voir. » Et justement, ce qui se passe dans ce passage des Ophites, est-ce hilarant ? Il n'en sait rien. Le lecteur est à présent, ou Antoine, est laissé à lui-même et va être face à cette image, face à ce texte. Et de fait, cette installation est vraiment dès le départ. C'est-à-dire que lorsqu'on commence le chapitre 4, Antoine et Hilarion voient des chrétiens attroupés, et la première question d'Antoine, c'est « Que veulent-ils ?» Et la réponse d'Hilarion, c'est la définition peut-être, la définition historiciste de ce qu'est la gnose. Le Seigneur a dit « J'aurai encore à vous parler de bien des choses, il possède ces choses. » Or, Flaubert pouvait trouver dans n'importe quel ouvrage sur la gnose qu'effectivement les gnostiques, dont je vais parler, je suis parti du lecteur qui ne savait rien, donc nous allons en parler, mais les auteurs qui parlaient de la gnose au XIXe siècle insistent sur le fait que effectivement c'est cette parole des évangiles étrange de Jésus qui dit qu'il a encore des choses à dire qui va être, disons, la justification première des gnoses. Et parmi les ouvrages qu'avait consulté Flaubert, Sesnec a bien montré que cette scène de Knouffis, qu'il analyse aussi, Flaubert l'avait vraiment puisée et réutilisée dans un ouvrage de Mater, dont là je vous ai mis la première édition, la deuxième est de 43, il y a quelques changements, et qui commence par nous dire qu'effectivement la gnose à l'époque était une chose assez nouvelle, c'est-à-dire que ça fait partie de ce grand mouvement de la mythographie, de la redécouverte des textes anciens, etc. Et donc, en fait, on peut étager encore notre schéma, c'est-à-dire que non seulement Hilarion est une image de l'écrivain qui y mène son lecteur, mais c'est aussi Flaubert en tant que lecteur qui va suivre Mater. Et Sesnec l'a montré à propos de ces médaillons, hein, qui avaient des images dont je vous ai lu déjà dans l'extrait, qui avaient des images animales, Sesnec a bien montré que ça venait de Mater. Mais il a pas relevé une chose, parce que ce n'était pas son propos, l'étonnement d'Antoine est reproduit quelque chose de la surprise de Mater, de ne pas trouver dans un ouvrage, dans un monument gnostique, la tête d'âne. Et il reprend exactement ce motif-là pour essayer, en quelque sorte, de faire correspondre non seulement donc tous ces étagements, mais le dernier qui est, disons, Mater lui-même, ou, disons, l'intertexte savant, qui doit avoir affaire, pour connaître la gnose, à la fois à des textes qui sont surtout anti-gnostiques, là par exemple c'est Origène, puisque ce sont les pères de l'Église, ce sont ceux qui nous sont restés, et c'est la nouveauté du 19e siècle, le 17e, le 16e aussi s'y était intéressé, mais disons, de cette façon-là, c'est vraiment au 19e qu'on essaye de relire les monuments gnostiques qui ont été laissés par l'histoire. Donc, lorsqu'on voit le quatrième chapitre, est fondé, Flaubert fonde ses hallucinations sur une lacune du texte sacré, hein, je vous dirai encore bien des choses, et qui est également le fondement de la gnose. Donc je vous rappelle où on est en plein dans les tentations spirituelles, au chapitre 4, et on va se situer avec notre épisode véritablement au cœur de la gnose. C'est-à-dire qu'au départ, la question de Flaubert, d'Antoine, pardon, que veulent-ils ? Ça va être « Qu'a dit Jésus ? Qu'a dit la Bible ?» Et on va voir l'exposé des doctrines, et c'est là où on a un défilé des hérétiques, à la fois les fondateurs et les sectateurs, où le lecteur, comme Antoine, est un peu perdu. Et ensuite, arrive une question fondamentale, qui est au cœur même de la gnose, qui est la connaissance de Dieu. Non pas ce qu'a dit Jésus, mais ce qu'il est, ce qu'est le Verbe et ce qu'est Jésus. Et alors là, on va avoir à nouveau une réponse qui va s'étager en fonction des images, des textes et des idées. On a d'abord les idées théologiques, comme précédemment. Hein, le défilé des hérétiques va recommencer très vite, mais de façon condensée. Les textes sacrés, qui vont être avancés par les hérétiques pour justifier leurs pensées. Puis des images de Jésus. Et dans les images de Jésus, à nouveau, s'étagent ces différentes sources, entre guillemets, à savoir la parole, hein, on aura un témoignage visuel, par l'image, la vie théologique, une statue détruite, un portrait, etc., et surtout par la présence. Et c'est là où les ophites arrivent. Les ophites sont ceux qui vont prétendre pouvoir ramener Jésus. Et c'est eux qui vont donner la réponse, évidemment, qui sera pour Antoine l'horreur absolue, à savoir que Jésus, c'est le serpent, enfin le Christ, c'est le serpent. Et si on continue ensuite, à partir de ce, c'est vraiment un point crucial, ce moment des Ophites, puisque à partir de là, Flaubert a dit « J'ai été Antoine, et je, Saint-Antoine, et je l'ai oublié », donc ça autorise mon lapsus constant. Antoine va suivre les Ophites et va suivre les martyrs, c'est-à-dire l'image vivante de Jésus. Hein. D'abord les martyrs, c'est l'image de la passion, on doit égaler Jésus par le martyr, ou sa passion, aller jusqu'à lui. Ensuite le gymnosophiste, Cézanne en parle très bien, il est à sa place, hein, c'est-à-dire le fakir de l'Inde est à sa place dans les hérésies, même s'il nous paraît un peu étrange ici, qui est une sorte de martyr superlatif et qui reprend le relativisme de d'Hilarion et qui va préparer le relativisme des religions. Et enfin, après les gymnosophistes, ceux qui se proclament les égaux de Jésus, à savoir Simon, le magicien, et surtout Apollonius de Tyane, dont Antoine dira à la fin du chapitre, celui-là était pire que Nabucodonosor et la reine de Saba. Et là où on comprend, où on passe vraiment à un dernier mouvement qui sera justement les dieux et le retour à la matière. Alors, Antoine donc pose cette question qui est vraiment la question gnostique par excellence, qu'est-ce donc que le Verbe, qu'était Jésus? Et c'est là où la gnose, vous allez voir à la fois que la gnose n'avait pas, il n'y avait pas une gnose, puisque chacun va, ça Mater le montre très bien, chacun puise à d'autres sources philosophiques, religieuses, etc., pour donner, apporter ses propres réponses. Et donc on va avoir d'abord des idées, alors il y a quelque chose d'assez drôle dans ce collage, où Flaubert vraiment réutilise une masse de documents impressionnantes pour faire une sorte de défilé très rapide qu'il vient de refaire, donc de reproduire l'effet qu'il venait de produire. Et ensuite, Antoine va dire « mais pas de révélation, pas de preuve », donc on s'attache à la Bible, au texte. Sauf qu'évidemment, les gnostiques ont leurs propres textes, qui sont les textes apocryphes. Donc à nouveau, on a cette liste. Et puis, on a les images qui vont apparaître. Et là, on a d'abord les vieux ébonites, hein, qui sont les témoins, hein, qui prétendent avoir connu, avoir vu le fils du charpentier. Ensuite, on a des images directes, hein, mais qui sont toutes plus ou moins détruites ou masquées. Et enfin, donc, une voix qui prétend... il va y avoir une parodie... absolument délicieuse de l'Eucharistie, qui prétend donc amener Antoine. Alors je ne vais pas relire parce que je n'ai pas le temps et puis on l'a lu, mais je vais le gloser en même temps que je laisse défiler le texte. Donc on a d'abord Antoine qui arrive dans cette salle obscure, hein, qui est une sorte d'obscurité pareille du texte, mais qui va s'éclairer peu à peu. C'est-à-dire qu'on a d'abord ces images hiératiques. Puis on va, la caméra va se braquer sur les êtres qui sont autour. Déjà, on va avoir une lampe, hein, signe que cette obscurité ne va pas durer. La caméra brusquement se braque sur les hommes, et c'est là où je trouve qu'on est exactement dans cette indécision de Flaubert sur la croyance ou non. C'est qu'il va nous décrire cette secte, exactement comme il pourrait décrire un club de politique dans l'éducation sentimentale. C'est-à-dire qu'on va vraiment sentir à la fois la grandeur et la petitesse de l'homme. Donc on a des hommes accroupis, la figure sous leur manteau, lance par intervalles comme un aboiement étouffé, des femmes sommeillent, le front sur leurs deux bras que soutiennent leurs genoux, tellement perdus dans leur voile qu'on dirait des tas de hardes le long du mur. Auprès d'elles, des enfants demi-nus, tout dévorés de vermine, regardent d'un air idiot les lampes brûlées. Et on ne fait rien, on attend quelque chose. Ils parlent à voix basse de leur famille. Alors voilà, là on a le small talk, c'est absolument délicieux. Ils parlent à voix basse de leur famille, où se communiquent des remèdes pour leur maladie. Plusieurs vont s'embarquer au point du jour, la persécution devenant trop forte. Alors, persécution devenant trop forte, pareil, il le tient de l'intertexte, hein, savant. Les païens, pourtant, ne sont pas difficiles à tromper. Phrase clé, il croit les sceaux que nous adorons nos fils. Mais un des frères, inspiré tout à coup, se pose devant la colonne, où l'on a mis un pain qui surmonte une corbeille pleine de fenouil et d'aristoloche. Les autres ont pris leur place, etc. L'inspiré déroule une pancarte couverte de cylindres entremêlés, puis commence. Sur les ténèbres, le rayon du Verbe descendit, et un cri violent s'échappa qui semblait la voix de la lumière. tous répondent en balançant leur corps qu'il y ait Eleison, l'inspiré. L'homme ensuite fut créé par l'infâme Dieu d'Israël avec l'auxiliaire de ceux-là, en désignant les médaillons qui ont la tête animale. Astophaios, Horaios, Sabaoth, vous le reconnaissez, c'est l'âne. Adonai, Eloi, Adonai, vous reconnaissez aussi, ça vient de la Bible. Eloi, Yao. Et il gisait sur la boue, hideux, débile, informe, sans pensée. Tous d'un ton plaintif. Kyrie eleison. Et donc, ici, tout est tiré de mater. C'est-à-dire que simplement, il simplifie, il écrase plusieurs, parce que la gnose est absolument extravagante de complexité. Donc, il écrase les différents niveaux. Mais, effectivement, il y a, si on considère l'écrasement de ces niveaux, une équivalence parfaite entre Astophaios, etc., et les animaux qu'il vient de citer. Évidemment, il n'en a cité que 6 au lieu de 7, puisque le serpent, il ne le cite pas. Normalement, on ne sait toujours pas qu'il y a une question de serpent. Hein. Il procède exactement à l'inverse. On n'a toujours pas. Le mot ophite viendra à la toute fin. Hein. On ne sait pas que Knoufis est chez les ophites. Pardon. Donc, on a ici, peut-être l'exposé par Flaubert suffit, hein, c'est la réécriture de la Genèse. Hein. Vous savez qu'il y a 2 écritures dans la Genèse, et là c'est l'écriture par la glaise. Sauf que dans la gnose, le Dieu d'Israël, donc c'est le mauvais démiurge, et lui crée l'homme, mais est incapable de lui insuffler le souffle. Et c'est Sophia, hein, mais Sophia compatissante, le vivifia d'une parcelle de son âme, c'est Sophia qui, elle, est du côté du bon Dieu, du vrai Dieu, du Dieu créateur, justement pas, de l'être suprême. Et Sophia, donc, c'est elle qui intervient pour donner une parcelle divine. Et à partir de ce moment-là, c'est cette parcelle divine en soi, pour les gnostiques et en particulier pour les ophites, c'est cette parcelle divine qu'il s'agit ensuite, pour Sophia, de faire remonter jusqu'à la sphère de l'être suprême. Et il y a une élection, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les pneumatiques, ceux qui ont plus de souffle que les autres, et ceux-là, évidemment, les gnostiques se reconnaissent comme les pneumatiques, sans surprise. Et alors, voyant l'homme si beau, Dieu fut pris de colère, donc Dieu, c'est encore une fois le mauvais démiurge, il l'emprisonna dans son royaume, le paradis, donc réécriture, cette fois du péché originel, qui est un secours originel, en lui interdisant l'arbre de la science. L'autre, c'est-à-dire Sophia, encore une fois, le secourut. Elle envoya le serpent, le voilà. Qui, par de longs détours, le fit désobéir à cette loi de haine. Donc voilà, la secte des Ophites, elle se reconnaissait par rapport aux autres sectes gnostiques par le fait que Sophia venait en aide à l'homme créé par le mauvais démiurge par l'envoi d'un esprit qui était semblable à elle et qui était sous la forme du serpent, qu'on appelait Ophis. Et Et donc, évidemment, vous avez reconnu le péché originel, c'est évidemment le serpent qui va inciter, cette fois, Adam et Ève à croquer dans la pomme, non pas pour désobéir, mais pour désobéir au mauvais démiurge, c'est-à-dire pour accéder à la science qui leur permettrait d'accéder, justement, à l'être suprême, etc. C'est ce que nous dit également Flaubert, ou l'inspiré, et l'homme, quand il eut goûté de la science, comprit les choses célestes. Mais Yabdalaot, c'est le mauvais démiurge, pour se venger, précipita l'homme dans la matière et le serpent avec lui. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, Flaubert fait une coupe, il s'arrête. Donc là, on a évidemment, vous reconnaissez aussi une scène de la Bible qui est Adam et Ève chassés du paradis. Donc, mais pour les gnostiques, c'est l'entrée dans la matière, hein, dans le corporel, etc. Sauf que la coupe de Flaubert est géniale, c'est que lorsque je passe, on reviendra, voilà. C'est qu'en fait, là, Flaubert, il coupe au moment où la secte des Ophites, justement, se ramifie, elle aussi, parce que la gnose est toujours comme ça, en se ramifiant. Et il y a plusieurs hypothèses, il y a eu plusieurs lectures de cette gnose mère, qui était que lorsque le serpent tombait, soit il restait ami des Ophites, des hommes, pardon, soit il devenait leur ennemi. Et Flaubert va évidemment choisir la toute petite secte qui avait considéré que Ophis, une fois tombé sur terre, restait l'allié de l'homme, et que donc l'homme portait adoration au bon démon. Alors, pourquoi est-ce que Flaubert nous met les Ophites à cet endroit? Il y a une raison qui est assez évidente, c'est qu'il y a une sorte de climax qui est de gradation qui est constante dans ce chapitre, et qu'on arrive à la sainte, à l'horreur de toutes les horreurs, puisque ça va se terminer par les paroles inspirées, ça va être on va faire venir le serpent, un vrai serpent. Toujours dans le côté sacré et complètement matériel, ça va rater d'abord. Est-ce que c'est tac tac? Cependant, rien ne se montre. Il appelle le serpent, et cependant, ça marche pas. Donc, on propose des moyens, etc. C'est vraiment, on est toujours sur ces deux tableaux du très prosaïque et du sacré. Et finalement, donc, la parodie de Caristie ou le sacrilège, c'est les fidèles collant leur bouche contre sa peau s'arrachent le pain qu'il a mordu, le serpent. Et la toute fin, ça va être ce qui va évidemment horrifier Antoine. Tordu à la barre de la croix et plus haut que sa tête, à Jésus, en bavant sur la couronne d'épines, tu le regardais mourir, car tu n'es pas Jésus, toi, tu es le Verbe, tu es le Christ. Et on se souvient de la question d'Antoine, qui était « Qu'est-ce que le Verbe? Qu'est-ce que Jésus ?» Et on va lui expliquer que Jésus n'était rien qu'un homme, qu'il est devenu le Christ, qu'à partir du moment, il nous le dit, il t'avait bu dans les ondes. Jésus, à partir du moment où il a été baptisé, là, selon certains gnostiques, et d'ailleurs, dans le défilé, on avait d'autres gnostiques qui disaient la même chose, avec l'image de la colombe, qui n'était devenu Dieu qu'à partir du moment où il avait été... je ne me rappelle plus la phrase exacte, mais à partir du moment où il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et... Pardon. Et donc, l'effet est assez évident d'abord, c'est qu'on a l'horreur absolue pour un chrétien orthodoxe, à savoir que l'ennemi est équivalent, égalité de tout, l'ennemi est équivalent à Dieu, enfin au Fils de Dieu. Et pareil, là on a tout l'intertexte qui est derrière, mais je passe. Mais c'est surtout qu'en plus, on a une sorte de plongée dans les origines de la gnose, parce que les ophites ont fait l'objet d'une discussion. Alors, c'est très intéressant de voir Mater. Je pense que, Mater vraiment, c'est un bouquin super intéressant. J'ai pas pu tout lire, j'ai pas eu le temps, mais j'en ai lu une grande partie. Et il dit qu'il veut essayer de repenser la façon de penser des gnostiques, ce qui évidemment devait séduire quelqu'un comme Flaubert. Et donc il n'y a pas de jugement moral, etc. Sauf pour les Ophites, où il y a un jugement où vraiment on voit que c'est sa secte préférée. Il trouve ça vraiment formidable. Il dit que Satan, il n'y a pas plus beau Satan que le Satan des Ophites, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Ophites, en fait, avaient été une des seules sectes gnostiques dont on ait pensé que peut-être c'était une secte judaïque. Donc avant le Christ. Et que certains auraient adapté leur secte, donc. D'où le fait qu'ils aient pu considérer que le serpent n'était qu'ils aient pu adapter certains éléments de leur dogme, alors que d'autres seraient restés fondamentalement ennemis de Jésus, comme on peut le voir dans le texte de Flaubert, encore que c'est ce qui compte, c'est que la secte des Ophites donc, avait été considérée peut-être comme une secte judaïque, et que surtout, Mater réfute cette idée, mais il dit que, notamment leur fondateur, Euphrate, écrit Mater, reste plongé dans les ténébreuses origines de la gnose. Et donc on a comme ça une sorte de plongée de plus en plus profonde, et même on pourrait aller beaucoup plus loin, parce que Flaubert, dans le texte de Flaubert sur le serpent, il y a une traduction, notamment d'un des seuls textes pseudo-phéniciens que Agnès Bouvier connaît bien, le Sanconiaton, parce que ce bon démon, ce serpent bon, viendrait à la fois de l'Égypte et de la Phénicie, où on trouve justement cette idée qui est complètement... qui nous est aussi assez étrange, étrangère, mais qu'il était déjà à l'époque pour tout l'Orient, à savoir que le serpent ne serait pas un être maléfique, mais au contraire, pourrait être un être bon. Une dernière chose aussi, on a vu qu'ils étaient tout petits, etc., que c'était une toute petite communauté, que la persécution devenait très dangereuse, devenait de plus en plus forte. Et ça, Mater le dit bien, à l'époque d'Antoine à peu près, même sans doute un peu avant, les ophites sont réduits à la portion congrue. C'est-à-dire que c'est une sorte de gnose de la gnose, c'est le nec plus ultra de la gnose, disons. Là, il y a vraiment presque plus de croyants, et la discussion des érudits de l'époque était encore très, très dure pour savoir d'où venaient ces ophites. Donc voilà, là c'est ce que je... peu importe, c'est ce que dit Mater, à propos du fait donc que cette idée d'un serpent qui serait bon viendrait à la fois de l'Égypte et de la Phénicie, et que dans l'Égypte, c'est l'équivalent d'un dieu qui s'appelle Knef, ou Agathodémon, que les lecteurs de Salambo connaissent aussi, puisque Eshmoun a aussi ce serpent enroulé, hein, qui représente l'éternité, et que ce Knef, en fait, qui est aussi une autre forme de Knoufis, hein, selon les textes anciens de l'époque, en fait, cette divinité de l'ancienne Égypte se retrouvait sur les monuments gnostiques extrêmement souvent. Hein. Le symbole de Knoufis est l'un de ceux que l'on rencontre le plus souvent sur les monuments gnostiques. Donc on comprend que Flaubert ait voulu installer ça au début. Je sens que... D'accord. 10 minutes. Maximum. Parfait. Alors, donc, s'il y a beaucoup de Knoufis, on peut se demander, mais Flaubert, qu'est-ce qui a mené son choix? Alors, Sesnec dit bien qu'effectivement, Mater a non seulement un beau texte, mais il a aussi de très belles illustrations qu'il reproduit. Est-ce qu'on les voit bien? Oui, ça va à peu près, non? Et est-ce qu'on voit ma... Ah, bah, c'est super. Donc, voilà. Donc, simplement, je voulais juste vous dire, si on regarde un peu... Ils se ressemblent tous un peu, sauf un. Pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression d'un serpent un peu partout, avec une tête plus ou moins animale, sauf celui-là. Hein, on voit bien que c'est pas un serpent, et on voit bien que c'est une tête humaine. Évidemment, on reconnaît là notre chrysalide surmontée d'une tête humaine. Une longue chrysalide couleur de sang avec une tête d'homme d'où s'échappent des rayons. Alors les rayons là sont moins marqués que sur les autres Knoufis. Et le mot Knoufis écrit en grec tout autour, elle domine, etc. Et alors, la question, c'est... c'est un peu étonnant de prendre ce Knoufis-là, parce que quand on lit les explications de la planche, Mater nous dit que toute la planche, effectivement, c'est des Knoufis, ou Agathodémon, décidément, notamment la figure 1, hein, c'est la forme la plus simple, le serpent à tête de lion. Et Flaubert choisit une image qui n'a ni serpent, ni lion. Et alors, la chose qui est assez intéressante, c'est que quand on regarde cette fois la figure 10, qui est la figure qu'a choisi Flaubert, il n'a fait que la colorier, hein, il a juste mis du rouge sang. Mater nous dit que Knoufis d'une composition toute particulière et qu'à peine nous oserions qualifier tel s'il ne se désignait ainsi lui-même. Donc à nouveau, l'image qui va frapper Antoine d'étonnement, la première chose qu'il frappe, c'est quelque chose qui a frappé Mater. C'est-à-dire, c'est quelque chose que la gnose a laissé et qui pose problème. Et elle pose problème, alors c'est justifié de façon par Mater de façon tout à fait convaincante quand on voit ce qu'a voulu faire Flaubert au point de vue de la narration. Mater nous dit, mais cette idée devait sans doute donner quelque chose de très particulier. Et il disait, bon, sans doute c'était parce que Knef était un dieu non-né, immortel. Et quand on regarde les qualificatifs que donne l'inspiré au serpent, on a, alors mangeur de terre, on le reconnaît, hein, c'est dans la Bible, inengendré, toujours jeune. Donc on comprend bien que Flaubert a pris celui parmi les images qui, disons, correspondait le mieux à son propos. Bon, on pourrait même continuer en le plaçant. On comprend qu'ils le mettent au début, puisqu'il y a une forte valeur apotropaïque hein, de repousser les démons. Donc c'est à l'entrée du temple. Bon, pourquoi pas. Et puis surtout, il y a des inscriptions sur cette image pour le voyage de l'âme. Et justement, juste après, on va avoir le voyage qui va amener aux martyrs, c'est-à-dire à ceux qui entreprennent ce voyage. On a un double voyage. On a le voyage matériel, puis le voyage spirituel. Mais il y a quelque chose qui me semble beaucoup plus important que ça. C'est si on remarque que un des illuminés, non, pas l'illuminé, juste avant que l'illuminé ne parle, je vous ai fait remarquer cette phrase, il croit à les sceaux que nous sommes des adorateurs, que nous adorons Knoufis. Donc on comprend mieux que non, Flaubert a mis là une image qui posait un problème d'interprétation, et Mater, pour l'interpréter, a besoin à la fois du texte et de l'image, parce que les deux ne collent pas. Et on voit bien que la première chose qu'on voit, en fait, Antoine nous met, n'est pas seulement la figure du lecteur, il est la figure du persécuteur potentiel qui rentre dans cette pièce et qui va voir une image, qui va lire pardon, un texte, qui va s'attacher à ce texte et donc penser qu'ils adorent Knoufis. Mais s'il faisait attention non pas seulement au texte, mais aussi à l'image, il verrait qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, parce que les principales illustrations de Knoufis, attributs de Knoufis, manquent précisément. Et c'est justement dans ce décalage-là que Flaubert a fait quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire, c'est qu'il a exactement inscrit au seuil de ce temple ce qu'est la gnose. À savoir, si on prend un des premiers penseurs pré-gnostiques, ce qui est important dans la gnose, c'est qu'il y a une transmission du savoir, alors nous dit Philon, à ceux qui ne sont pas enchaînés par le vain appareil des mots. C'est-à-dire celui qui se contente de lire Knoufis va croire le sceau que ce sont des adorateurs de Knoufis. Celui qui fera attention aussi à l'image va pouvoir être dans une attente qui va du coup lui permettre ce qu'est la gnose, à savoir qu'il y a un savoir exotérique et un savoir ésotérique. Et ça, Mater, alors j'ai pas eu.
Il faudrait arriver vers la conclusion, parce que sinon on ne peut pas discuter.
D'accord. Alors ma conclusion, ma conclusion, c'est celle-là. Il faut que je l'invente. C'est que Flaubert nous a mis à l'entrée de cette grotte où il essaye de retracer ce qu'est il nous met dans la position de celui qui n'a pas encore reçu le savoir ésotérique. Et donc on a d'abord, on se colle justement à un texte et on s'attache au texte et donc on pense c'est Knoufis, et ensuite on va avoir la parole de l'inspiré qui va justement nous dire que tout ça, non, c'est pas Knoufis, c'est autre chose, c'est le serpent, c'est Ophis. Et donc ce qui me paraissait extrêmement intéressant, c'est le choix de Flaubert de faire lutter, de faire vraiment combattre l'image et le texte, mais pour servir vraiment une exemplification de ce qu'est en profondeur la gnose. Et alors, si j'avais eu le temps, ce que j'aurais voulu montrer, c'est que cette image de Knoufis, elle ne s'arrête pas là. Hein. Les derniers mots du passage, c'est « il n'a pas quitté les ophites ». Et j'aurais voulu montrer qu'il n'a pas quitté les ophites et que le monstre que je vous avais montré au début, qui ressemble aussi, qui est aussi une tête humaine sur un corps qui ondule, vient de ce monstre et même vient d'un autre que Flaubert n'a pas cité ici, quand il a coupé de ce Satan plus beau que le plus beau Satan selon Mater, et qui est Ophiomorphos, celui qui a une forme de serpent. Voilà. Et voilà.
Pardon d'avoir
été si bavard.
Et merci d'avoir, à partir de cet exemple, souligné la complexité de l'interaction du texte et l'image et montré à quel point la tentation de saint Antoine est un montage de texte, ce qu'avait souligné Foucault dans son article sur le fantastique dans la tentation et dans Bouvard. Alors, y a-t-il des remarques? Pierre-Marc de Biasi.
Oui, merci. Très belle exposition. Complètement désordonnée. C'est super, plein de choses.
tellement profonde de la culture critique sur Flaubert. Alors peut-être que si on reste dans l'orientation que tu nous donnes et que je trouve tout à fait fondamentale, parce qu'au fond, tu nous expliques, c'est ta conclusion, que le texte consiste à placer le lecteur dans la position de celui qui va être initié. Alors là, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de du sens de ce que tu dis là. C'est probablement toute la poétique du mystère posé comme liberté du lecteur aussi dans le texte qui est engagé. C'est une vraie nouvelle façon de poser la question de la poétique flaubertienne. Si on fait ça, je pense qu'on saisit quelque chose de ce que Flaubert définit à sa manière comme du sacré dans le profane, une vraie transcendance dans l'immanent, ce qui est quand même une vraie question fondamentale, mais on peut oublier le jeu avec l'intertexte contemporain. Parce que tout ça est aussi traversé par une blague qui est celle de la relation au présent. Très difficile de penser à une croix, à un Christ avec un serpent dessus, sans penser à Félicien Rops. Très difficile de parler de la question des germes, de la contagion, etc., sans penser à la question de la syphilis et au débat Pasteur Couché. Et tout ça est là, en même temps. Donc, je voudrais, dans l'idéal, si tu veux, ce que tu nous as montré, devrait avoir une deuxième couche, qui est celle d'un intertexte qui, au plus malin des contemporains, au moins pour la version de 74, frappe à chaque bout de ligne sourire, parce que ça évoque quelque chose aussi d'un mystère ou d'un débat contemporain. Au fond, la question de la génération spontanée ou pas, c'est une question qui relève du même mystère que le serpent bon ou mauvais.
Je suis complètement d'accord. Alors, je vais commencer plutôt par la fin. J'ai pas eu le temps et je pense pas que je vais le retrouver là comme ça. Mais il y a notamment pour le monstre, le premier monstre, celui la manière de monstre. Il me semble qu'il y a une image de Rops moins connue que celle du serpent sur la croix et qui est justement une mort éluxure tout à la fois avec des ailes de papillon qui partent comme ça. Et à mon avis, alors c'est une illustration pour un livre de Pelletan, je crois.
De Pelletan, merci.
Mais j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas, parce que c'était après la tentation, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas une. En tout cas, il y a un écho de parenté évident. Oui.
Il est illustré.
Oui, mais
je
Oui, bah puis notamment, enfin pour l'image dont tu parlais, c'est dans les Fleurs du Mal, donc c'est 60, parce que c'est la deuxième, 61 ou la posthume, je sais plus, 67 au maximum en tout cas. Et pour ce qui est de Pouchet et de la génération spontanée, dont Agnès Bouvier aussi avait bien montré comment dans Salammbô c'est crucial, et justement cette jonction entre l'intertexte savant ancien et l'intertexte savant contemporain sur d'autres sciences, disons, c'était la dernière résurgence de mon knoufisme que j'aurais voulu évoquer, mais comme c'était un peu osé et que là j'avais plus le temps, je l'avais passé à l'as. Mais il y a chez les ophites, ce qui est très important, c'est à un moment donné, il le dit l'inspiré, le serpent et l'homme sont jetés dans la matière. Mais en fait, avant ça, puisque tout est dupliqué par des images dans la gnose, avant ça, il y a le Dieu créateur, lorsque Sophia insuffle le souffle de vie à l'homme, il entre dans une colère noire, le mauvais démiurge. Et à ce moment-là, il se regarde dans la matière, Et qu'est-ce qu'il voit dans la matière ? Lui-même à la manière d'un miroir. Il se voit lui-même dans la matière. Et c'est de là que naît notamment, justement, Ophiomorphos, ce serpent, Satan parfait. Et ce regard dans la matière où on se voit, évidemment, à la fin, on se dit, mais si on reprend cette dernière partie, où on a les tentations spirituelles, les matériels spirituels, puis de l'esprit à la matière, on se dit, c'est exactement ce mouvement-là qu'il décrit Flaubert, enfin son saint, qui ensuite veut se confondre avec la matière, après avoir vu justement ces petits cils vibrer. Et on se dit, bon, mais juste après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une nouvelle hallucination. Alors, c'est plus une tentation, normalement, il se remet en prière. Mais on a Jésus, la face de Jésus, en plus, c'est à ce moment-là, hein, il écrit, il hésite, il ne sait pas par quoi terminer. Et on a une sorte de miroir assez troublant, où cette fois, le soleil, la face de Jésus dans le soleil, or les hérétiques, il y en a un qui avait dit, je vous l'avais mis, où est Jésus ? Il habite le soleil. C'est-à-dire qu'on aurait... Odilon Redon, justement, a fait de cette image une image saisissante, où on a l'impression que c'est un œil. Et donc, tout d'un coup, on a l'impression que cette image finale ressemble diablement à cette dernière vision du saint. C'est-à-dire que les deux dernières visions, il y a la matière entre les deux, sont une sorte de... Il y a une sorte de spécularité, comme ça.
Redon. Oui, je disais Redon, parce que c'est Redon.
Mais...
Oui, parce que en fait.
La blancheur d'un clé dont tu parlais, on la trouve dans les visions les plus hardes de Savard Bourse concernant la défunte de l'hôpital.
Enfin, j'ai pas pu le. J'avais commencé un article. Un des nombreux que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé, sur justement la figure du serpent, de la femme serpent et de la sirène. Et en fait, effectivement, il y a un fil complètement fou. On a dans tous les romans les plus. Et même ceux où on ne l'attend pas, on trouve ces images qui reviennent.
Là, ça vient dans une période où j'étais servi pour le film de ce film que j'avais fait, où il y a textuellement, d'abord, sur les questions qu'on a créées, à tous deux, il y a une fille, enfin, cache-nous une regard, ça en vaut, et une baisse pour le film. Cache-nous une forme de ça.
Oui, et puis c'est vraiment... je connaissais pas ce brouillon, mais il me conforte dans mon idée. Et sur l'idée du lecteur qui est dans la position de l'initié, il me semble qu'effectivement, ce qui est très fort dans la tentation, c'est que c'est vraiment ce problème de l'illisibilité. Alors, bien sûr, il a dit « je l'ai écrit pour moi », etc. Mais en fait, non, il y a un souci du lecteur qui est très grand. Et ce chapitre de la gnose me paraît... Parce que le fait que ce soit illisible est complètement calculé, et c'est pas illisible. C'est-à-dire que, justement, on arrive peu à peu, et on arrive non seulement par le texte, mais par les images. Et c'est ça qui me paraissait intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est ce que Jeanne Bem a aussi souligné tout à l'heure. C'est quand même un des gros problèmes de... Enfin, problème au sens... pas problématique, mais au sens de... C'est une des choses importantes de Flaubert, c'est d'arriver justement à forger de l'image. Et que cette image-là participe justement à l'initiation du lecteur, c'est ça qui me paraît... c'est ce qu'il essayait aussi de faire, que ce soit pas lassant, que ce soit pas que le lecteur puisse suivre, mais pas seulement par un exposé.
Interpréterais-tu en fait ces... ce passage avec la lumière, le jeu de lumière, ce jeu de l'écriture avec cette main, comme tu l'as dit, et cette illisibilité qui quand même suggère une certaine lisibilité, après tout, avec cette lumière.
Oui, alors tout à fait, c'est ce que j'ai essayé trop rapidement de dire, c'est-à-dire que l'obscurité peut justement se dégager, et qu'il nous met, comme par hasard, après la mention d'une salle obscure, il nous met une lampe. Et ensuite, on va avoir le discours de l'illuminer qui va nous permettre de l'illuminer, hein, qui va nous permettre d'illuminer ou d'éclairer, en tout cas, ces figures que nous ne comprenions pas. Par ailleurs, il y a deux choses, c'est intéressant. Ce choix de ne pas le reproduire en grec, je le vois justement à un niveau presque minimal, donc d'autant plus intéressant, dans ce choix déterminé de ne produire que de l'image verbale. C'est-à-dire que le mot knoufis doit être écrit en grec, et ça doit être écrit qu'il est écrit en grec, et non pas, comme chez Hugo, qu'il n'emploie pas l'alphabet grec, parce que l'alphabet grec, chez le lecteur, implique déjà un premier mécanisme de lecture-image. C'est-à-dire, c'est déjà une image, même si on lit le grec. C'est déjà, le regard se heurte à, change de fonction, disons. Alors que chez Flaubert, justement, l'image doit être, il ne voulait pas illustrer, etc., enfin, c'est très connu. Il y a vraiment ce choix de produire l'image. Donc on dit qu'il est écrit en grec. Parce que c'est à mon avis, enfin, je ne sais pas si ça ne va pas très loin, mais c'est ce que je dirais pour ça. Et la dernière chose, pour cette lumière et cette tête dans les rayons, bah, c'est ce que j'ai esquissé là tout à l'heure à la fin, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même la tête du Christ entourée de rayons, c'est exactement Knoufis, c'est-à-dire Knoufis au Fils, hein, au Fils Christ. C'est-à-dire que c'est pas... Oui, reprenons. Knoufis, c'est le dieu égyptien. Et les gnostiques considèrent ce Knoufis comme étant au fils Christ, hein, le serpent Christ. Et ce serpent Christ, il a la tête entourée de rayons. Donc c'est exactement l'image qu'on aura à la fin.
Bien, mais écoutez, on va peut-être s'arrêter sur cette
petite question. Je voulais savoir si je suis dans l'erreur, parce que je envisage quelle est l'influence de la pensée orientale dans ce texte, dans le sens que si le Coran est envoyé sur terre, c'est que la Bible n'est pas visible par les hommes, et qu'il manquait des clés.
Alors, ça, je ne saurais pas répondre à propos du Coran. En revanche, qui est une influence orientale, disons que ça dépend comment vous entendez ça. C'est-à-dire que tout n'est... De quoi ? Ça, je ne crois pas. Je pense, enfin, sauf erreur, mais encore une fois, je ne suis pas du tout... Je pense que c'est vraiment le principe de la gnose. Donc, après, la gnose étant antérieure à l'islam, je ne pense pas que... J'ai dit la gnose.
Hein.
je pense pas, mais voilà.
Bien. On va s'arrêter là en remerciant beaucoup et en remerciant les deux intervenants et le public qui est resté vaillamment. Donc je vous donne rendez-vous. Le prochain séminaire sera le 17 mars avec Bernard Vouilloux, qui est un grand historien d'art, Flaubert, Taine et les théories contemporaines de l'image. Donc à bientôt.